Jérôme Rastaud, vous êtes artiste associé à cette saison culturelle du département de l'Isère et vous êtes en résidence ici au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Bonjour.
Bonjour.
Pour le public qui ne vous connaît pas, est-ce que vous pouvez un peu raconter votre parcours artistique, d'où vous venez et c'est quoi votre créneau artistique ?
Moi, en fait, je suis venu à la peinture initiée par mon père qui était artiste peintre, qui m'a ouvert les portes de l'art et de la peinture avec les livres et la peinture que je voyais jour après jour se faire à la maison. J'ai eu cette chance. Puis j'ai fait ce choix-là, moi aussi, qui n'était pas forcément voulu par mes parents, mais en tout cas, je l'ai fait ce choix-là. Donc c'est un bel héritage que j'ai pu avoir de leur part. Et du coup, j'ai commencé plutôt par les arts déco à Limoges. Rapide, très rapide, je suis parti assez vite. À tort ou à raison, je sais pas. Personne ne le saura. Et puis du coup, j'ai continué mon parcours en autodidacte avec mes propres expériences, un travail qui a toujours été influencé par l'iconographie médiévale depuis toujours, parce que ça m'est venu très jeune avec des livres. J'ai trouvé la narration médiévale hyper intéressante. Narration, ça veut tout dire, hein, c'est raconter des histoires. Et moi, j'aime bien raconter des histoires, narrer des contes, tout ce qui nous fait rêver, quoi. Et en fait, à cette époque, ils arrivaient grâce à une image, à une gestuelle, à des expressions, à nous en dire beaucoup. Peut-être grâce à un phylactère aussi, à appuyer un discours que je trouvais ça intéressant. À travers les enluminures, le vitrail, la gravure, les émaux aussi, parce que j'ai grandi à Limoges et c'est une ville d'émail. Voilà.
Est-ce que c'est vraiment propre à cette époque-là de raconter en une image une histoire ?
Alors, moi, je saurais pas le dire parce qu'en fait, il faudrait parler à un historien de l'art et moi, je suis plus dans le côté sensible des choses. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Après, j'ai l'impression que quand on est passé après, qu'on est allé dans la perspective, des choses comme ça, magnifique, ou dans le traité de la peau parfait ou des transparences, je pense qu'on en a perdu cette ultra lisibilité de l'image brute qui en racontait beaucoup. Juste une image ou un bandeau qui se déroulait comme une bande dessinée, je pense à la tapisserie de Bayeux ou à des séries de vitraux où on passe d'une baie à l'autre et là on découvre toute une histoire qui se déroule devant nous. Et je pense que c'est la période qui a été vraiment la plus belle pour ça. Ne serait-ce que, voilà, pour même je pense aux enluminures qui me sont chères. Voilà, vous avez ces textes. Ceux qui ne savaient pas les lire pouvaient se plonger dans les décors autour et découvrir mille histoires fantastiques. D'ailleurs, c'est vraiment sous-côté l'enluminure parce qu'il y a des choses incroyables à découvrir là-dedans, complètement folles, pas du tout classiques et sages comme on peut l'imaginer.
Et est-ce que, du coup, en tant qu'artiste contemporain, on est en 2026, comment vous travaillez alors, du coup, l'image alors qu'on est dans une société qui n'est plus qui n'est plus médiévale, ou avec une domination de l'image qui est celle d'aujourd'hui.
Ouais, une ultra-saturation de l'image, ouais, carrément. Et puis, on n'a plus besoin de décrire, on a plein d'autres moyens. Il y a la radio, il y a le ciné, il y a tout ça. Du coup, en fait, mon idée, en fait, c'est pas de peindre comme au Moyen-Âge. On n'est plus au Moyen-Âge, vous le disiez à l'instant. On n'a pas le même propos, l'image n'a pas le même but. Effectivement, on en est saturé. Moi, mon histoire, c'est vraiment de reprendre cette narration très lisible pour pouvoir raconter des choses aux gens d'une autre manière, justement parce qu'on est saturé d'images aujourd'hui. On a la possibilité, même avec des intelligences artificielles, d'en générer en 2 secondes. Donc on pourrait se dire à quoi bon créer ? Juste peut-être pour le côté sensible. Moi, j'ai amené quelque chose qui vaut pas grand-chose de plus que ce que je propose. En fait, ça n'a de valeur que pour les gens qui ont envie de s'y arrêter et de regarder. Alors moi, ma proposition, en effet, elle n'est pas de peindre comme au Moyen-Âge. Pas du tout. Si vous regardez, je ne fais jamais de reproduction du Moyen-Âge. Je ne reprends jamais l'architecture, ni les corps comme on les faisait à l'époque dans le vitrail. C'est plus une influence et une inspiration. Et ce que je cherche à faire, c'est peut-être plus comme une uchronie. C'est un autre chemin. Comme si, en fait, la peinture avait pris un autre chemin et qu'on avait continué après le Moyen-Âge. Et avec un autre graphisme qui en serait encore toujours emprunt, mais qui aurait évolué avec le temps. Après, mes références, elles sont plus celles de l'époque. Souvent, je dis pour représenter le mal, par exemple, pour des choses très basiques et primaires, le bien, le mal, sans jugement, mais en tout cas, le bien, le mal, à l'époque, le mal, on le représentait avec une espèce de bête, avec des pattes de bouc, un corps d'homme, etc., des cornes, etc. Ben, je pense que c'est plus un langage qui nous parle aujourd'hui. Il nous parle parce qu'on l'a appris, on l'a assimilé à l'école par deux, trois images, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous demandez à des jeunes, et c'est ça qui m'intéresse, qu'est-ce qu'ils voient dans le bien, le mal, ben, en fait, ils vont avoir leurs références, ils vont les puiser dans leur culture, la culture populaire. Ça va être les jeux vidéo, les films, les BD, tout ça. Et en fait, moi, j'aime bien puiser cette influence là-dedans. Alors, je ne reprends pas des éléments à proprement parler, mais je m'en inspire. Par exemple, je pense aux plantes carnivores. Souvent, dans mon travail, il y a des plantes carnivores. Ben, c'est inspiré des jeux vidéo ou de certains dessins animés qu'il pouvait y avoir, que moi, j'ai regardé. Et je trouvais ça intéressant de... Ben voilà, moi, en deux secondes, quand je vois ça, je pense au mal, par exemple. Et c'est ma manière à moi d'en parler. C'est un peu comme une espèce de cheval de Troie visuel qui permet d'accrocher le regard, de se dire, ben, tiens, ça, c'est un élément qui correspond à mon époque, à la culture populaire. Et du coup, ben, cheval de Troie, on rentre, ou pas, après. Mais voilà, le passage, il est fait, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que du coup vous essayez de tricoter entre des choses et contemporaines et médiévales, mais sans caricaturer ni l'un ni l'autre ?
Alors, je comprends bien le côté tricot, c'est marrant parce que tricot c'est aussi assembler, faire des nœuds, etc. Mais en fait, j'essaye de l'envisager en tout cas de manière non intellectuelle en fait. J'essaye pas de construire, de faire une construction intellectuelle en me disant comme une recette, je vais mettre un peu de ci, un peu de ça. Parce qu'en fait, je pense qu'on en perdrait, enfin, j'y perdrais, mais en tout cas en sincérité. Et alors ça, c'est vraiment mon avis, mais pour moi, c'est le plus important, en fait, dans une œuvre, c'est qu'il y ait de la sincérité. Après, on aime, on n'aime pas, on adhère ou pas, on comprend, on a envie de comprendre ou pas, mais si c'est sincère, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, il y a une proposition. Et je n'ai pas envie d'intellectualiser, en fait, en mettant des ingrédients à hauteur de un tiers de moderne, deux tiers de médiéval, etc. Voilà.
Donc là, vous êtes en résidence au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye autour de cette exposition sur l'eau. Mmh. Qu'est-ce que vous allez créer ou vous êtes en train de créer autour de l'eau ?
Alors déjà, j'ai eu cet immense honneur d'être invité ici par le musée et le département de l'Isère. Ça a été, pour moi, c'est un vrai coup de cœur parce que quand je suis venu ici pour la première fois, on était sur ce projet qui n'était qu'une idée au départ. Et on s'est dit, tiens, comment envisager d'investir l'espace en lien avec le sujet de l'année, avec mon travail, que tout ça soit cohérent. Et en fait, on m'a laissé la chance d'intervenir dans le jardin médiéval de l'abbaye. C'est sublime, c'est vraiment un lieu extraordinaire. Là, on entend la fontaine à côté de nous. C'est un petit jardin d'Éden, ça, pour faire écho à ce qu'était le jardin médiéval à l'époque. C'est aussi le symbole du jardin d'Éden et du coup j'ai eu envie d'y parler des quatre fleuves du paradis, faire un lien avec l'eau en parlant des quatre fleuves du paradis qui se déversent dans le jardin d'Éden et du coup justement faire un rapport avec ce lieu et peut-être pourquoi pas envisager le fait que ce jardin d'Éden qu'on cherche partout, il est peut-être à Saint-Antoine-l'Abbaye.
Et du coup, vos techniques, elles sont plutôt donc de peinture ouais. Murale, peinture sur vitrail. Là, qu'est-ce que vous avez choisi de faire ?
Alors, moi, j'utilise plein de médiums. Je travaille sur toile, je travaille en extérieur, sur mur, effectivement. Je fais des intrusions aussi sur des objets que les gens abandonnent dans la rue. J'aime beaucoup faire ça. M'inscrire, en fait, dans l'espace public, sans avoir à se cacher, à courir. Donc, je trouvais ça intéressant de travailler sur des objets abandonnés qui ont déjà une histoire. Et là, là, c'est le lieu qui a une histoire. Donc, ce jardin, il est fabuleux. Et quand on est arrivé ici avec les équipes qu'on faisait cette visite du musée, on est arrivé dans cet endroit-là et il y avait ces fenêtres aveugles qui se prêtaient en fait tout de suite à l'idée d'investir le lieu de cette manière. En fait, offrir des espèces de vitraux inversés. Plus des vraies peintures, pas des faux vitraux. L'idée, c'est vraiment d'évoquer le vitrail dans ce qui peut être une porte imaginaire vers un ailleurs, en fait. Et là, en fait, j'ai vu ces trois fenêtres comme ces portes potentielles. Et du coup, je fais cette proposition sur les quatre fleuves du paradis avec une allégorie de cette image avec les quatre verseurs qui arrivent et qui déversent l'eau dans ce jardin d'Éden. que vous pouvez voir avec ces cloisons roses, comme on les représentait souvent dans les enluminures au Moyen-Âge, et puis qui se déverse dans ce qui est en fait le jardin de Saint-Antoine, avec un Antonin qui est représenté avec ses plantes qui servaient à soigner dans l'herbolarius, le jardin des simples, où il cueillait les plantes médicinales. Et après, vous y trouverez aussi quelques petits éléments cachés ou second degré qu'on ne voit pas forcément au premier abord, mais voilà, qui créent un lien avec notre époque.
Est-ce qu'on va la voir ?
Allez.
Donc là, Jérôme, elle est terminée, votre fresque dans le jardin. Est-ce que, donc là, on est à la radio. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut décrire aux auditeurs, auditrices ?
Bah, déjà, on vient de l'installer avec les équipes du musée là, qui ont fait un super travail. C'est un plaisir à faire. L'idée, c'est que vous voyez, en fait, ces trois fenêtres sont comme une espèce de triptyque. En tout cas, je l'ai pensé comme ça. Alors, c'est de forme pyramidale. Voilà comment je pourrais vous le dire à la radio. Avec deux grandes fenêtres de 2 mètres, à peu près 2 mètres par 1 mètre, deux les unes à côté des autres. Et une fenêtre un peu plus en haut, en mode pyramide, qui fait 1 mètre, à peu près 1 mètre par 1 mètre. Du coup, l'idée, en fait, c'est de présenter ces verseurs qui tiennent dans leurs mains de grandes jarres. Grande jarre d'époque en fait qui déverse une eau cristalline, un peu comme on pourrait retrouver dans l'eau des glaciers des Alpes, parce qu'en fait j'avais envie de m'inscrire aussi dans le lieu, dans le département. Ça a un sens, vous verrez d'ailleurs dans l'angle d'une des peintures, on voit en arrière-plan les Alpes. Ces personnages descendent, ils offrent cette eau qui descend avec les noms originels des quatre fleuves du paradis, en tout cas comme on les entendait à l'époque, comme le Tigre par exemple. Vous avez tout en haut à droite, il y a une espèce de petit champignon magique. Alors pour les gens qui ne connaissent pas mon travail, il y en a plein. Le champignon a une symbolique très positive pour moi. En fait, c'est comme on le retrouve dans certains jeux vidéo, on le retrouve comme une vie supplémentaire ou un pouvoir supplémentaire, le fait d'aller deux fois plus vite ou d'aller dans les airs, etc. Donc j'aime bien cette idée, surtout que le champignon est souvent à l'origine de toute chose. Donc on retrouve souvent ces champignons dans mes symboliques. Et tout en haut, en fait, il y a ce champignon qui irradie et qui, un peu comme à l'origine, une espèce d'origine de ces quatre sources. Du coup, après, vous avez ces quatre verseurs avec les noms qui irriguent l'entrée en fait de ce jardin d'Éden qui est représenté cloisonné, comme il l'était souvent, cloisonné par des murs souvent roses. Alors moi, j'ai choisi de lui faire des ouvertures parce qu'on n'a pas envie de s'enfermer aujourd'hui. Donc moi, j'avais envie de faire des ouvertures.
Et oui. Juste les quatre fleuves pour les auditeurs auditrices qui connaissent pas. Est-ce que vous pouvez rappeler l'histoire ?
Oui. Alors en fait, il y a deux fleuves qui existent réellement, c'est le Tigre et l'Euphrate, et deux fleuves imaginaires, le Fison et le Gion, qui sont représentés là. Alors après, il y a plein de noms différents en fait en fonction de l'histoire et des textes. Moi, j'ai choisi ceux-là, mais en fait, c'est vraiment très instinctif. Après, en fait, c'est les personnages. Alors souvent, on me dit que ces personnages me ressemblent. je sais pas. En tout cas, moi je les pense un petit peu comme des avatars en fait. Je sais pas si vous voyez, comme dans les Sims, il y a au-dessus des Sims, il y a toujours un petit diamant quand c'est le personnage qui fait l'action. Mais en fait, moi je les vois un petit peu comme des avatars. Je cherche pas du tout à ce qu'ils me ressemblent, mais en tout cas c'est une espèce de clones en fait qui sont un petit peu partout et qui servent de fil conducteur en fait dans les histoires, un peu comme un voyage imaginaire. Et où c'est toujours le même personnage qui, au fil des histoires, se déplace et vit les choses. Et puis ici, après, en fait, vous allez retrouver pas mal de choses, la végétation avec les plantes. Alors les plantes me viennent de pas mal d'éléments. Alors ça vient déjà des enluminures, parce que dans les enluminures, il y a toujours ces aspects végétaux en fait qui ornent les textes. Et moi, ça me vient aussi pas mal plus de notre époque, des plantes que vous retrouvez dans des univers comme Mario Bros, qui vous servaient d'aller d'un monde à l'autre en grimpant le long des feuilles. Il y avait aussi un dessin animé que j'adorais qui s'appelait Jace et les conquérants de la lumière. Les gens vont me prendre pour un dingue, mais en fait, c'était des plantes invasives sur lesquelles les gens vivaient. Il y avait aussi un livre, pareil, qui vient de mon enfance, qui s'appelait L'artiste ou les pouces verts, je ne sais pas si vous connaissez, qui était un livre complètement magique qui me fascinait, avec un enfant qui il mettait son pouce dans la terre et chaque fois qu'il y mettait une graine, ben, du coup ça avait un effet magique qui faisait pousser des plantes miraculeuses. Donc en fait voilà, ça vient de tout cet univers. Ici, après, vous y retrouverez dans les nuages. En fait, il y a comme une espèce de fantôme. Alors, c'est difficile de le décrire, mais bon, du coup, il faut venir à Saint-Antoine-l'Abbaye pour le voir. Il y a un fantôme caché quelque part. Alors, ce fantôme, il évoque pas mal de choses que vous retrouvez dans les jeux vidéo, dans la bande dessinée, dans les cartoons, etc. Ici, là, vous avez également... Alors, le fantôme, en fait, c'est pour parler de la persistance de la mémoire. Pour moi, ça évoque ça. Parce qu'en fait, chaque élément, je m'en sers un peu comme dans une pierre de rosette. Ils ont chacun une signification. Et après, je les assemble en fonction des compositions que je fais. L'escargot également. L'escargot, c'est un symbole très, très important au Moyen-Âge. Dans l'iconographie médiévale, on en retrouve beaucoup autour de la chevalerie, etc. Alors moi, je me le suis un petit peu approprié en l'imaginant comme une espèce de grand sac à dos dans lequel, en fait, vous avez... tout l'actif de votre vie, tout ce que vous allez vivre dans votre vie, les rencontres, vos actions, bonnes, mauvaises, tout ça, je l'imagine que vous l'emmenez dans ce que j'imagine être un paradis dans l'au-delà, parce que le paradis, il y a aussi cette notion d'au-delà. Après, vous allez voir l'herbularius, donc le jardin des simples. Le jardin des simples, en fait, dans lequel nous sommes, avec un Antonin qui est représenté avec une espèce d'énorme champignon rose fluo, limite radioactif derrière lui. Ça, c'est pour représenter le claviceps. C'était ce fameux champignon qui était à l'origine du mal des ardents, que soignaient les Antonins, justement, grâce à leurs plantes. Et vous y verrez des flammes, en fait, qui en sortent pour évoquer, justement, cette brûlure. Enfin... Il y a d'autres éléments comme l'œuf qui, dans pas mal de cultures, est le symbole de l'âme. Donc là, il a une apparence un petit peu plus contemporaine. Il ressemble un peu plus à, je sais pas ce que vous en pensez.
Je pense à Mario Bros.
Ouais, ouais. Notamment un œuf de dinosaure ou des choses comme ça. Et voilà, en arrière-plan, ça vous ouvre vers les Alpes. Parce que ce que je vous disais, j'avais envie de placer toute cette scène ici.
Et au niveau des couleurs, on est quand même dans des choses effectivement très contemporaines, même si l'iconographie, on voit bien la dimension médiévale, et bien les couleurs nous amènent complètement à aujourd'hui.
Alors la couleur, moi, c'est tout ce que j'aime. En fait, j'aime le fluo. Souvent, je me dis qu'au Moyen-Âge, ils auraient connu le fluo, ils s'en seraient servis pour, par exemple, faire le ciel de l'Apocalypse. Ils auraient, souvent, quand je représente l'Apocalypse dans mes peintures, j'aime bien mettre du orange fluo, des rouges fluo, parce que, en fait... Il n'y a rien de plus parlant pour moi. Et du coup, là, vous êtes sur des couleurs. Alors, l'idée, c'est pas d'être sur des couleurs saturées et sur des chocs violents de couleurs. L'idée, c'est vraiment de créer une harmonie avec des verts, des couleurs très fraîches, en fait, qui se heurtent pas. L'idée n'est pas que les couleurs se heurtent, mais plutôt qu'il y ait quelque chose de très fluide, en fait, qui se passe, tout en ayant des couleurs très, très vives. Vous avez notamment, comme vous le voyez, des jaunes fluo, des oranges fluo, des bleus... des bleus lagons, les plantes aussi sont dans des verts. En fait, l'idée, c'est que si vous venez le soir, la nuit va tomber tard, mais quand la saison avancera, si vous venez le soir, vous verrez que les couleurs, elles vont changer. J'utilise des couleurs très particulières, c'est de la flash, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, ça porte bien son nom. Et il y a entre un aspect justement un peu que je retrouve un peu du Moyen-Âge, parce que c'est ultra mat, et à la fois des couleurs très, très denses en pigments.
Comment vous avez travaillé cette œuvre? Là, vous dites que vous l'avez installée. Ça veut dire que vous l'avez travaillée en intérieur, pas in situ?
Oui, exactement. En fait, l'idée, c'était de... Quand on a vu ces fenêtres, je pensais en fait travailler en atelier et amener les œuvres sur place, les installer du coup avec les équipes. Donc ça a été fait aujourd'hui. Et effectivement, oui, ça a été tout travaillé en atelier, dans mon atelier à Paris, et voilà, et amené ici, cette semaine.
Alors Jérôme, on rappelle que si on veut découvrir votre œuvre, il n'y en a qu'une seule, hein, sur Saint-Antoine.
Alors ça, c'est la principale sur les quatre fleuves. Après, il y a des relais en fait qui sont un petit peu partout dans le musée, notamment à la boutique. Et là, je vais en faire également dans l'entrée du musée, dans les collections permanentes. Vous avez une œuvre aussi à l'entrée du musée. Et de l'autre côté du jardin, toujours en lien avec l'eau. Alors soit c'est sur les eaux salvatrices des Antonins, comme il y a en face dans le jardin, avec un aspect plus jaune d'argent, pour faire un clin d'œil au vitrail toujours, mais plus sur les jaunes d'argent. Et après, dans l'entrée du musée, vous avez une composition qui est autour de la fontaine de Jouvence, parce que j'avais envie de parler de l'eau sous cet autre aspect. Gosse, j'étais fasciné par Indiana Jones. Et dans le 3, on parle beaucoup de ça. Et ça m'a toujours fasciné. Donc j'avais envie d'y faire un petit clin d'œil. Donc il y a la fontaine de Jouvence là-bas. Et j'ai également la chance d'avoir une œuvre présentée dans l'exposition. Voilà, je vous invite à le découvrir et me dire ce que vous en pensez.
Merci Jérôme.
Merci beaucoup.